Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Agnès Bonfillon et le journal de Sébastien Rouxel.
Ah, bonjour Sébastien.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, Donald Trump qui multiplie les menaces contre les Iraniens.
Dans une série de tweets, le président américain promet de les frapper plus fort qu'ils ne l'ont jamais été s'ils attaquent à nouveau les États-Unis. Il a notamment assuré que 52 sites iraniens avaient été identifiés et seraient visés en cas d'offensive. Hier soir, des factions pro-Téhéran ont mené deux attaques quasi simultanées en Irak, l'une sur une base militaire qui abrite des Américains, l'autre sur la zone verte de Bagdad où se trouve l'ambassade des États-Unis. La République islamique a promis une dure vengeance après la mort du général Qassem Soleimani, l'un des hommes forts du régime, tué avant-hier par un tir de drone américain. Une attaque ordonnée par Donald Trump. Mais pourquoi maintenant, Philippe Corbet ?
Oui, pourquoi le président Trump a-t-il pris un tel risque maintenant? Selon des fuites dans les services de renseignement révélées par le New York Times, les preuves de l'imminence d'une attaque qu'aurait préparée Soleimani sont très minces. La menace était forte, mais pas beaucoup plus précise que d'habitude. Était-elle vraiment imminente? C'est important car c'est comme ça que l'administration Trump justifie son assassinat. Évidemment, l'équipe Trump rappelle aussi que Soleimani est responsable de la mort de centaines d'Américains et de beaucoup d'autres dans la région. C'est vrai, mais si c'était un assassinat punitif, le président aurait dû prévenir les dirigeants du Congrès, démocrates et républicains, habilités à recevoir des informations secret défense. Or, ça n'a pas été fait. Seul un sénateur proche de Trump a été mis au courant en jouant au golf avec lui. Donc la question demeure, pourquoi un tel risque maintenant? C'était l'option la plus radicale proposée par le Pentagone, alors que depuis des mois, le président Trump a choisi systématiquement de privilégier des options plus mesurées après les provocations iraniennes. Pourquoi maintenant, s'interroge la journaliste du New York Times qui révèle ses informations. Avant de conclure, difficile de dissocier son assassinat de la saga de la destitution du président Trump.
Philippe Corbet, notre correspondant aux États-Unis. Conséquence de cette escalade, la marine britannique va escorter les navires commerciaux du Royaume-Uni qui passent dans le détroit d'Ormuz, un point stratégique pour le commerce mondial du pétrole.
La fuite de Carlos Ghosn est injustifiable.
Déclaration du ministre japonais de la Justice un peu moins d'une semaine après l'évasion spectaculaire de l'ex-PDG de Renault-Nissan, désormais au Liban. L'enquête se poursuit au Japon, mais aussi en Turquie. Selon Ankara, deux étrangers ont aidé le mania déchu lors de son transit via Istanbul. En Australie, le bilan s'alourdit. Les feux qui ravagent le pays ont fait une 24e victime. Des dégâts considérables sont à déplorer au lendemain d'une nouvelle journée marquée par des conditions météo catastrophiques. Des centaines de propriétés détruites. L'état d'urgence a été décrété dans le sud-est du pays.
La procureure de Créteil l'avait pressenti quelques heures plus tôt en conférence de presse, Sébastien.
Le parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête sur l'attaque au couteau de Villejuif avant-hier. Un homme a poignardé trois personnes, dont une mortellement dans cette commune du Val-de-Marne. Et si les troubles psychiatriques de l'assaillant sont avérés, de nombreux éléments retrouvés laissent penser qu'il s'agit d'un acte terroriste, selon Philippe Bugeaud, le directeur adjoint de la police judiciaire parisienne.
Qu'avait-il avec lui? Des ouvrages, dont le Coran bien sûr, c'est le béaba de tout bon musulman et pas seulement des radicalisés. Des ouvrages divers sur la religion musulmane et quelques ouvrages effectivement qu'on peut qualifier de salafistes. Ça c'est ce qui était avec lui. Bon. Et puis par ailleurs une lettre qui peut être considérée comme non pas une lettre d'allégeance mais une lettre de départ, une lettre testamentaire avec des répétitions assez caractéristiques du musulman qui s'autoflagelle et qui sait qu'il va peut-être faire le grand saut. Tout ça est en cours d'exploitation. Comme le disait madame la procureure, pour tout ce qui est contact, tout ce qui est tendance vers une radicalisation, nous sommes en train d'explorer, ce qui veut dire que l'enquête peut évoluer.
Le directeur adjoint de la police judiciaire parisienne.
RTL Matin, il est 8h03.
Après un mois de conflit sur la réforme des retraites, le gouvernement reste déterminé.
La promesse d'un régime universel sera tenue. Le monsieur retraite l'assure ce matin dans un entretien aux Parisiens. Certes, les marins, les policiers ou encore les danseurs de l'Opéra de Paris ont déjà obtenu des aménagements, mais ce sont des cas extrêmement limités, ajoute Laurent Pietraszewski. Pendant ce temps, la rue continue à mettre la pression sur le gouvernement. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans toute la France hier, à Paris, Marseille, Rouen ou encore Toulouse. Alors, malgré cette contestation qui s'éternise, le moral des Français est plutôt meilleur que l'an dernier. Sondage Harris Interactive pour RTL. Un peu plus d'une personne interrogée sur deux estime que l'année 2019 a été positive pour eux. C'est 8 points de plus que l'an passé à la même période, quand le moral était miné en pleine crise des Gilets jaunes. Le regain d'optimisme, lui aussi, est assez net. Mais de grandes différences existent en fonction des opinions politiques, William Galibert.
Oui, comme un miroir de la situation actuelle en pleine contestation sur la réforme des retraites et avec cette grève qui fait déjà partie des plus longues de l'histoire. Au milieu de ce paysage social chaotique, forcément, ce sont les électeurs d'Emmanuel Macron qui demeurent de loin les plus optimistes pour leur avenir et pour celui de leurs proches. À 77%, c'est même 8 points de plus que l'an passé à la même époque. Chiffre donc largement supérieur à celui des sympathisants socialistes. 61% se déclarent optimistes. Ensuite, ça grimace sérieusement. Moins d'un électeur sur deux des Républicains et du Rassemblement National pense que les mois à venir s'annoncent positifs. Le chiffre descend même à 42% pour les électeurs de la France Insoumise et du Parti Communiste. Mais attention, quelles que soient les couleurs politiques, les Français jugent la préservation du modèle social comme le sujet prioritaire. Comme un avertissement, alors que les négociations se poursuivent entre l'exécutif et les syndicats.
William Galibert du service politique de RTL.
Les négociations, justement, elles reprendront mardi. Et ce jour-là, Édouard Philippe sera l'invité exceptionnel de RTL. Le Premier ministre répondra aux questions d'Alba Ventura dès 8h moins 20.
Et puis on apprend ce matin dans le journal du dimanche qu'Emmanuel Macron réunira le gouvernement en séminaire le 15 janvier prochain. L'objectif, lancer de nouveaux chantiers. En attendant, la grève se poursuit dans les transports. 2 TGV sur 3 en circulation aujourd'hui pour ce dimanche de retour de vacances.
Une pause et dans un instant, on va revenir sur l'exploit de la Saint-Pierroise. Le club de la Réunion s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France de football.
RTL Matin, il est 8h07 avec Agnès Bonfillon et le journal de Sébastien Rouxel.
À chaque édition, son lot d'exploits et la 103e Coupe de France de football ne fait pas exception.
Les 32e de finale hier ont été marquées par plusieurs victoires inattendues, à commencer par celle de la Saint-Pierroise face à Niort. Le club de la Réunion s'est imposé 2-1 face aux pensionnaires de Ligue 2 et se qualifie donc pour la suite de la compétition. Jamais un club réunionnais n'avait été aussi loin pour le plus grand plaisir des habitants de l'île.
Je pense que c'est toute une fierté pour la Réunion, hein, parce qu'arriver à ce niveau de la compétition, une équipe jeune avec des joueurs talentueux, ben on peut qu'être fier, hein, même si on n'est pas un supporter habituel et régulier de la Saint-Pierroise. Mais en tant que Réunionnais, ben, on participe avec eux cette victoire, donc c'est très bien.
Moi j'avoue, j'y croyais pas trop au début, mais surpris, mais je suis content quand même, surpris surtout.
En tant que Réunionnais, je suis fier et puis je me dis ben, c'est une très bonne chose, ça veut dire que le football réunionnais est en progression. Hein, d'aller gagner en métropole dans ces conditions météo. On a eu pas mal d'échos qui lui donnaient perdants, notamment la voyante qui prédisait que la défaite de la Saint-Pierroise, comme quoi je crois que là, il devrait aller se cacher, hein, parce que c'est une mauvaise publicité, quoi, je pense. Hein, voilà. Bravo la Saint-Pierroise, et puis bon, prochain tour, peut-être par l'OM ou Paris Saint-Germain.
Antoine Gélin, notre correspondant à La Réunion, qui a recueilli ces témoignages. Autre surprise, le succès de Saint-Privé-Saint-Hilaire face à Toulouse. Le club du Loiret s'impose 1-0 au bout du temps additionnel. Ce soir, une autre équipe aura l'occasion de créer l'exploit. L'INAS Montlhéry, un club de 6e division, affronte le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi à 21h. Les 13 confrontations prévues aujourd'hui sont à suivre toute la journée sur RTL, dans nos flashs, avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux.
C'est une première en 42 éditions. Le rallye Dakar se délocalise au Moyen-Orient cette année.
Coup d'envoi de la course aujourd'hui en Arabie Saoudite, un pays où les droits des femmes restent très limités malgré quelques avancées récentes. Elles doivent par exemple demander l'autorisation de voyager ou de faire des études à un gardien masculin. Alors forcément, le choix de ce pays comme lieu de la compétition a surpris les pilotes féminines qui y participent, Isabelle Langer.
10 femmes seulement prennent part à la course. Toutes ont eu la même réaction quand elles ont appris que le Dakar s'installait en Arabie. C'est le cas de l'italienne Camelia Liparotti.
C'est vrai qu'on s'est posé des questions, hein, surtout en tant que femme.
Les femmes, dont certaines sont actuellement en prison et torturées pour militantisme, ont des droits encore très limités en Arabie. Et cela impose certaines règles aux participantes du Dakar. Marika assiste son père, pilote moto.
We have long trousers, nous avons des pantalons longs, mais nous ne portons pas de voile.
Une certaine tolérance, donc, pour un pays qui prône une ouverture d'esprit et se vante de permettre désormais aux femmes de conduire, même si pour cela, n'oublions pas qu'elles doivent d'abord demander l'autorisation à leur tuteur, c'est-à-dire leur père, mari ou fils. L'Espagnol Laia Sens, qui compte 9 victoires en tant que pilote moto femme sur le Dakar, espère que la course va permettre de faire évoluer les mentalités.
Ce n'est pas seulement pour le prouver aux femmes saoudiennes, mais plutôt aux hommes. C'est le plus important, leur montrer qu'une femme peut être compétitive et forte.
D'ailleurs, le gouvernement ne cache pas qu'il aurait aimé pouvoir aligner une femme sur ce Dakar. Cela aurait été effectivement une véritable preuve d'ouverture.
Isabelle Langer, l'envoyée spéciale de RTL en Arabie Saoudite. C'est le tournoi de la dernière chance pour l'équipe de France de volley. Les Bleus jouent leur avenir olympique lors d'une compétition qualificative qui débute aujourd'hui. Leur premier adversaire, la Serbie. Coup d'envoi à 13h30.
C'est une tradition, pas une obligation. La saison des étrennes débute.
C'est l'usage. En début d'année, on remercie son concierge, son facteur ou le pompier du quartier par une petite somme d'argent. Alors auparavant, les habitants d'un immeuble n'avaient pas le choix. Ils devaient donner des étrennes correspondant à 10% de leur loyer. Mais désormais, c'est loin d'être le cas, notamment à Lyon, Bertrand Frachon.
En centre-ville, les gardiens d'immeubles sont de moins en moins nombreux. Éric Dubouchet exerce toujours ce métier à Lyon, dans un immeuble cossu du 5e arrondissement. Et il est très clair, les étrennes ne sont vraiment plus ce qu'elles étaient.
Ça fait 20 ans que je travaille. Je dirais qu'au début, il y avait peut-être 20 ou 30% de l'immeuble qui me donnait. Mais maintenant, c'est passé à moins de 10% et la moyenne aussi a baissé de toute façon. On va dire que c'était peut-être à 50 euros à l'époque. Maintenant, c'est peut-être 30.
Autre profession qui bénéficie traditionnellement des étrennes, les pompiers. Et là, les Lyonnais se montrent souvent plus généreux.
Ils font beaucoup de bénévolat, hein, y a peu de professionnels dans le monde des pompiers, donc puis nous rendent service. Quoi, hein.
Lisez-vous, je pense qu'ils ne sont pas super bien payés, donc ça paraît normal. Voilà,
Et vous donnez combien aux pompiers ?
Une vingtaine d'euros à peu près.
Enfin, le facteur profite aussi parfois du petit billet pour la nouvelle année, encore faut-il qu'il passe avec son calendrier.
Le fameux calendrier avec les chats, les chiens, je ne sais même pas si ça se fait encore. Il y avait les plans des villes, les rues, ça pouvait servir ça aussi.
Ça manque au mur de la cuisine ça.
C'est plus du tout d'actualité au niveau de la décoration.
Enfin, méfiez-vous des faux pompiers et des faux facteurs qui sévissent souvent au moment des étrennes. Dans le doute, vérifiez toujours sa carte professionnelle.
Bertrand Frachon, notre correspondant à Lyon.
Oui, surtout faites attention, hein. Effectivement, si quelqu'un sonne à votre porte, voilà, vérifiez bien que ce soit quelqu'un qui mérite ces étrennes. Dans un instant, RTL, Objectif Tokyo, mais
les courses. Mais...